الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
Et le principe premier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le domaine des affaires sociales, tout est permis, sauf ce qui est interdit. C'est exactement le contraire que dans l'autre. Mais si vous ne dites pas ça, votre interlocuteur, il pense que vous pensez les mu'amalat comme les ribadat. Ne lui ayant pas expliqué, vous le trompez. Et l'ayant trompé, vous allez vous disputer sur quoi? Sur des choses que vous n'avez pas expliquées. À qui la faute? À qui la faute? Vous avez utilisé des mots que vous avez compris, que lui comprenait, mais lui, avec son histoire, ne peut comprendre que selon ses références. Et pour lui, quand tu parles de religion, tu n'as pas de raison. Et quand nous on parle de référence religieuse, on sait qu'il y a un domaine où tu n'utilises pas beaucoup ta raison. Tu pries comme tu dois prier, tu jeûnes comme tu dois jeûner, et chaque fois que tu peux faire quelque chose, tu demandes « est-ce que j'ai le droit de faire ceci ?» Ça c'est les ribadat. La marge de liberté est quasiment nulle, sauf pour les allègements, ce sont les questions de conscience, si tu voyages, si tu es malade. Et puis dans le domaine des mu'amalat, alors oh là là, mais quelle liberté! Si quelqu'un vient te dire tu fais pas ça, il doit t'amener le texte et te dire la yajouz hada. Il doit te dire tu peux pas. Mais tant qu'il n'y a pas un texte qui te dit tu peux pas, tu dis à la barakatillah. Tout ce que je peux faire et il n'y a pas un texte qui me dit tu n'as pas le droit est islamique. Subhanallah. Mais quand on va expliquer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout de suite, les premiers savants ont travaillé leur raison en essayant de savoir. Est-ce que ça allait dans le domaine du permis? Est-ce que ça allait dans le domaine de l'interdit? Est-ce que, et c'est tous ces éléments juridiques qui nous amènent à la troisième source de notre juridiction, quelle est-elle? L'ijtihad. L'ijtihad dans laquelle il y a l'ijtihad jama'i, c'est l'ijma par exemple, ou l'ijtihad el-fardi, el-qiyas, le raisonnement par analogie. Mais vous dites raisonnement par analogie comme étant l'une des sources principales du droit islamique. Il y a déjà la raison. C'est-à-dire que déjà dans nos références, on n'est plus du tout dans ce qu'on a dit par rapport à l'institution chrétienne et catholique et toute cette histoire. Nos références juridiques nous disent il y a un champ de raison nécessaire. Attention, j'ai pas dit permis, j'ai dit nécessaire. Si tu n'as pas de raison comme juriste musulman, hein, tu ne peux pas être un bon juriste et tu ne seras pas fidèle à l'islam. La raison est une obligation de la fidélité chez nous. Elle fut considérée comme une trahison dans l'autre tradition. Chez nous, elle est l'objet de la fidélité. Plus tu raisonnes dans le sens de la révélation, plus tu es fidèle. Alors que là, plus tu raisonnes, plus tu risques d'être un traître. Est considéré comme quelqu'un qui pose un problème à l'Église. Bien. Eh bien, dans ces fondements-là, dans ces fondements essentiels, l'ijtihad également est une dimension, qu'est-ce que c'est? L'effort d'interprétation personnelle. Pourquoi l'islam s'est-il répandu de cette façon-là? Il s'est répandu de cette façon-là par cette grande capacité d'adaptation des registres culturels et sociaux des gens. On acceptait tout et on mettait les limites là où l'islam disait tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas faire, les mu'amalat te disent tu ne peux pas faire. Alors on va adapter tout ce champ-là qui est ouvert pour nous, mais la raison reste largement ouverte. Et l'autre élément qui reste quand même fondamental pour nous, qui est venu dans la tradition occidentale et en particulier chrétienne avec le processus de sécularisation, c'est ce qui s'appellera la priorité du droit. Nous sommes une religion du droit. Nous sommes une religion de la jurisprudence et de la juridiction. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on discute avec les musulmans? Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec l'état de droit? Mais nous, on ne peut pas être autrement dans un état de droit. Mais pourquoi est-ce qu'il nous pose la question? C'est parce qu'on sait mal s'expliquer. En disant il n'y a pas de différence entre religion et politique de la façon dont on le dit, on trompe nos interlocuteurs. Parce qu'en fait, il y a une différence chez nous entre la façon dont on prie et la façon dont on organise sa société. Mais bien sûr, il y a une différence. Depuis les premiers savants, il y a une différence. Bien sûr, tu pries dans l'obéissance totale et tu organises dans la fidélité totale, mais avec la raison. Avec le principe rationnel fondamental. Et ça, ce sont les fondements qu'il ne faut jamais oublier. Raison pour laquelle, quand on va présenter l'islam, dans notre gestion du politique, il y a une différence par rapport à notre gestion du culte. Il y a une différence de méthode, pas une différence de source. Vous avez bien entendu ? Une différence de méthode, pas une différence de source. Alors quand on parle de Shumuliyya, on dit la référence est la même. Nous, on veut rester fidèles au Coran et à la tradition du prophète, alayhi salam. Mais le prophète, comme tous les compagnons, nous enseignait une chose. Avoir une même référence, ça ne veut pas dire avoir une seule méthode. Ah, mais ça c'est très important. Parce que vous avez même certains de nos frères, ils vont dans le champ des mu'amalat avec l'esprit des ibadat. Tu n'as pas appris le droit islamique. Si tu fais ceci, c'est que tu trahis le sens même de cette différence. Et la ibadat ou le mu'amalat. Et donc, ce principe-là pour nous, il est de dire même référence. C'est ça la shumuliyya, c'est que tout revient à nos références, mais différence de méthode. Et quand vous dites ça à vos interlocuteurs, ça les fait énormément réfléchir. Parce qu'en fait, ce qui les gêne, c'est effectivement la méthode de l'imposition du dogme. Mais pas forcément la référence. C'est comment on l'a imposé. Et quand on dit comment, c'est la méthodologie de l'imposition. C'est pas forcément la référence. Et ça, pour nous, c'est très important de savoir que là, c'est là que se situe le débat. C'est là où nous allons avoir aujourd'hui la plus grande contribution à apporter à la civilisation moderne. Et je vous promets que repose sur nos épaules une responsabilité majeure. Majeure. À nous les musulmans aujourd'hui, de comprendre ceci. Déjà de comprendre cette dimension-là, celle que je viens de mettre en évidence. Permettez-moi rapidement, avant d'en venir à la troisième, à la quatrième et avant-dernière partie, et j'en aurai fini, pour ouvrir quand même le champ au débat, ce qui nous amène, j'avais parlé des fondements pour mettre en évidence cette particularité. L'histoire maintenant. Eh bien, le prophète, al-Salam, lui-même faisait la différence entre le fait révélé sur lequel on ne discutait pas et le fait pensé sur lequel on discutait. Un compagnon vient vers le prophète à la bataille de Badr et lui dit, prophète, est-ce que ce lieu c'est toi qui l'as décidé ou c'est révélé? Pourquoi il lui pose cette question? Si c'est révélé, je me tais. Si c'est toi qui l'as discuté, tu l'as pensé, on discute. Et il dit, non, c'est quelque chose que j'ai pensé, alors on discute. Alors c'est pas une bonne stratégie. Là où le prophète pensait comme un homme, il avait en face de lui des hommes. Et c'est le principe de la Shura. Là où c'était un prophète révélé, pas de discussion. En d'autres termes, quand ça t'est révélé que tu dois faire comme ceci, dans l'interdiction ou la permission, ou comment tu dois prier, je ne discute même pas. Sama wa ta, pas de discussion. Par contre, quand il y a une question de stratégie, on va discuter. Et toute la situation sociale et politique, c'est des questions de méthodologie, d'appréhension, d'équilibre. On n'a jamais dit en islam que tu étais plus croyant quand tu étais moins intelligent. Jamais. Parfois, c'est ce qu'on comprend, nous. Même dans nos associations islamiques. Moins tu fais preuve d'intelligence critique, plus on considère que tu es un bon musulman soumis. Subhanallah. Alors que c'est le contraire. Apporte ta contribution critique, mais soumets-toi à la décision de la majorité. Pas dans la discussion de la majorité quand on n'est plus d'accord avec toi, alors tu es d'accord tout seul avec toi-même. Puis tu sors et tu vas le dire en plus. Bien, ça c'est le premier principe, le prophète Rasulullah Sallam. Les compagnons, de la même façon, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait une décision qui était une décision à prendre? Abou Bakr, il réunissait les gens, le principe de la Shura c'est ça, discutons ensemble. Mais quand on a pris une décision, on discute sur tout ce qui concerne Amruhum Shura Bainahum. Ils se concertent dans leurs affaires, on a ce principe-là de la pluralité. Et dans l'histoire, c'est comme ça que les choses également se sont passées. Dès le début, on a des principes de position qui sont des positions intellectuellement fondées, même si elles sont inspirées, orientées et qu'elles se veulent fidèles à la révélation. Et puis on a une grande époque, on a l'époque médiévale sur laquelle il faut qu'on se penche, et l'époque médiévale avec des grands esprits. C'est très très étonnant. Comment aujourd'hui en Occident, vous avez peut-être entendu parler d'un film qui s'appelle Le Destin, où on a lancé une OPA, colonisation intellectuelle sur Averroès, en disant voilà, ça c'est le musulman véritable, c'est un vrai rationaliste. Simplement, c'est tronqué. Parce qu'Averroès c'est un grand juriste. Averroès c'est un très très grand juriste de l'islam. Et lui, il avait un souci très très pointu de la fidélité aux sources. Il voulait rester fidèle aux sources, mais il n'a jamais compris la fidélité comme un déni du droit de la raison à penser. Mais il fait partie d'une tradition qui était comme ça partout à cette époque-là. Chez les musulmans, c'était quelque chose qui était vivace. Ibn Sina, c'était la même chose. Et même les grands juristes, si vous lisez les réflexions intellectuellement fondées d'Ibn Hazm, un grand juriste de l'islam, vous dites subhanallah, et même ensuite, par la suite, 14e siècle, on a également, parallèlement, plutôt 14e siècle, on a quelqu'un qui est dénigré par les références orientalistes, parce qu'ils ne l'ont pas lu ou l'ont lu à moitié, c'est quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, qui a une méthodologie et une approche extrêmement fondée intellectuellement. Ce sont des gens qui ont utilisé leur tête. Eh bien, sur le plan de l'histoire, toute cette tradition va avoir une énorme influence, je l'ai dit tout à l'heure, sur la tradition chrétienne. C'est eux qui ont amené énormément dans leur relecture des textes grecs et latins à l'autonomie naissante de la pensée européenne. Et quand, par exemple, Alain de Libera, professeur et philosophe d'ailleurs lui-même, disait... C'est une grande erreur de dire la contribution de la pensée musulmane à la conscience européenne. Dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un ethnocentrisme. C'est les Européens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que les musulmans leur ont donné. Et il dit, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est les fondements de la conscience européenne en ce qu'elles ont des références islamiques. C'est pas la contribution, non, c'est fondamentalement l'essence même de la pensée européenne qui est fondée sur la pensée islamique et sa contribution. Donc il refuse cette idée qu'il y ait une petite contribution comme ça, un saupoudrage. Non, il dit c'est majeur. Et là, c'est un philosophe sur lequel, vivant d'ailleurs aujourd'hui, il enseigne encore, il était à Paris et maintenant il est à l'université de Genève, il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle « Penser au Moyen-Âge ». Et vous allez voir combien il met en éclairage la contribution d'un côté, mais également les fondements dans la conscience européenne de la pensée islamique. Bien, une fois qu'on a développé aussi cette dimension, vient à se poser la question, l'islam et la laïcité par rapport à ça. Alors, j'aimerais mettre en évidence deux choses. C'est, on pourrait s'arrêter à l'apparente contradiction de l'islam et de la laïcité. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, par ces deux définitions parallèles, qu'en fait, ou ces deux présentations, qu'en fait, il y a énormément de points sur lesquels on peut trouver un ancrage, et plutôt que de s'asseoir, tant que musulman, et de dire, moi je ne peux vivre en tant que musulman, on est ici au Sénégal. C'est une société majoritairement musulmane. Et son principe est la laïcité. Alors il y en a certains... Ils vont s'asseoir, ils vont garder le principe de la laïcité et ils diront, ça, c'est pas islamique, je dois changer ça dans la constitution. Et comprend, effectivement, ici, là où ils sont, que c'est un principe d'opposition. Et moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de regarder dans l'état actuel des choses, quelles sont les choses qui sont nées de la raison, nées également de la colonisation, qui sont des choses qui, dans leur façon et dans leur méthode, sont et correspondent à une posture islamique. C'est donc non pas une attitude de conflit, c'est une attitude de réforme. C'est une attitude de réforme et de compréhension de tous les acquis. Là, c'est une position intellectuelle qu'il me paraît très très importante d'avoir. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, que ce soit en Europe d'ailleurs ou dans les pays musulmans, ont un concept en face d'eux, en ont fait l'ennemi de leur intelligence, elles sont obnubilées par cette opposition. Et tout ce qu'il aurait permis de faire par ailleurs, ils le laissent, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'ayant trouvé un ennemi, ils ne savent plus où sont les alliés et les ouvertures possibles dans le champ qui est le leur. Alors j'aimerais vous dire que dans le champ qui est le vôtre aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'il vous est donné de faire dans la société dans laquelle vous êtes. Et donc, par rapport à cela, il faut retenir un certain nombre d'acquis. Sans oublier que nos références ne sont pas les références de la société qui a apporté ce concept de la façon dont elle l'a apporté. Ça, on le sait, il ne faut pas être naïf. Il faut avoir une conscience claire de notre histoire. Mais il faut avoir aussi une conscience claire de l'état des lieux, de l'état de la situation. Ne pas rêver au-delà du réel, même s'il faut rêver pour changer le réel. C'est pour reprendre la formule affectueusement. Donc en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'il m'intéresse de faire ? La première des choses, je crois, qui est importante, c'est de relever un certain nombre d'acquis. Ces acquis, quels sont-ils ? De trois dimensions. Alors encore une fois, je m'oppose, mais vraiment fermement finalement, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses clairement. À ceux qui simplement, par une attitude intellectuelle d'opposition à un principe d'organisation sociale, finissent par stériliser toute action possible. Et ça, c'est gênant. Ils vous disent, je suis contre ça, et toute leur vie, c'est de s'opposer à ce principe organisationnel, et ils stérilisent et ils paralysent toute action positive dans la société dans laquelle on est. Or, aujourd'hui, il faut tenir compte des acquis qui sont les vôtres, ici, au Sénégal. Et quels sont-ils ? Il y a quand même à relever un certain nombre de choses, comme dans les sociétés qui sont celles où nous vivons nous-mêmes, où nous ne sommes pas d'accord, où nous ne voyons pas dans le modèle, l'unique modèle d'organisation, mais où nous allons, dans la situation qui est dans la nôtre, tirer profit d'un certain nombre de choses. Pourquoi ? Tirer profit dans le sens positif en se disant, attention, nos références islamiques telles que je viens de vous les présenter mettent en évidence un champ possible d'organisation rationnelle, de perspectives qui restent fidèles à nos principes, nous l'avons dit, et qui ne sont pas en contradiction avec nous-mêmes, qui ne sont pas en contradiction avec ce qu'on croit, et qui sont des choses dont l'évolution de la sécularisation en Europe les a amenés à ouvrir un champ qui nous intéresse, c'est le champ d'une certaine liberté rationnelle, et qui a apporté trois choses qui nous intéressent, parce qu'elles sont fondamentalement liées aux principes islamiques. 1. L'état de droit. La primauté du droit, c'est important. Et partout, dans le monde entier, ceux qui aujourd'hui vont se faire avec la plus grande des vigueurs devant Dieu les défenseurs du droit, ce doit être les musulmans. Nous sommes les défenseurs de l'état de droit. Il y a des droits, et il faut qu'ils soient appliqués. Et il y a des devoirs, bien sûr. Parce que pour nous, le droit est toujours né de la conscience de notre responsabilité. Raison pour laquelle, par exemple, le Shatibi, dont je n'ai pas parlé, mais là c'est une référence fondamentale, a mis en évidence les cinq orientations, il les a synthétisées pour ce qui le concerne, les cinq orientations de responsabilité des musulmans telles qu'ils apparaissent dans la compréhension globale de la charia. Qu'est-ce que c'est ? Le principe de défense et de protection de la religion, et nous avons une responsabilité par rapport à ça, défense et protection de la personne, de l'intégrité de la personne, défense et protection de la raison et de l'entendement, défense et protection de la filiation, de tout ce qui est l'univers familial, de la filiation des enfants, de la progéniture, défense et protection des biens au sens général. Les cinq domaines fondamentaux. Bien, ça c'est le domaine de la responsabilité qui précède chez nous la fonction du droit. Mais quand on est dans une société qui est un état de droit relatif, parce que tout n'est pas parfait, on le sait, il y a des droits, ils sont... Et toute société est dans une dynamique où elle essaye d'être plus encore une société de droit. Même les sociétés qui se disent les plus avancées ou représentantes des droits de l'homme ont des déficiences en matière d'état de droit, c'est certain. Rien n'est parfait de ce point de vue-là. Le deuxième principe qui est un acquis important, c'est le principe pour nous de la liberté de conscience. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nous que dans une société... même majoritairement musulmane, ce principe-là, il est important parce que c'est fondamentalement islamique ici. C'est fondamentalement islamique. À eux, ils ont les mêmes droits que nous a enseigné le prophète alayhi salam, mais là, dans le principe constitutionnel, c'est important. Comme également la liberté de culte. La liberté de culte, extrêmement importante pour nous, c'est le principe de la liberté. Et surtout, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont à décider de l'organisation de leur religion et pas quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. C'est une responsabilité majeure, l'auto-organisation des musulmans dans ce champ-là. Quand on regarde simplement, je m'arrête à ces trois choses-là, qui sont trois acquis. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous, en tant que musulmans, quelle que soit la société dans laquelle on vit, de deux choses l'une, soit on s'oppose en permanence à ce concept, soit on tient compte des acquis et on développe une attitude positive par rapport à ces références-là. Pour aller vers ce qui est, chez nous, fondamental. Et il faut avoir conscience de cette responsabilité-là. Avant de mettre en place cette dynamique et de poser les questions fondamentales qui seront les vôtres, Inch'Allah, ici dans cette société-là. Vous devez être dans cette société-là porteur de la question fondamentale pour interpeller les institutions positivement, non pas toujours dans un sens critique négatif. Mais on a un sens critique toujours constructif. Celui qui a un sens critique négatif, il n'est pas un réformateur, il est un destructeur. Il ne tient pas compte des acquis, il veut enlever ce qu'il gêne. Mais nous, on veut construire sur l'acquis et modifier ce qui nous gêne. On ne veut pas détruire tout, comme on dit dans la formule, jeter le bébé avec l'eau du bain et tout détruire parce que quelque chose ne nous plaît pas. C'est une conscience de la réalité qu'on doit avoir. Le rêve qui prend naissance dans une conscience très très approfondie de nos réalités. Et tirer parti des profits en se disant, la laïcité qui a amené les sociétés européennes à ce niveau-là et qui même dans leur colonisation ont imposé un modèle, eh bien nous de ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut tirer qui va nous permettre de revenir à la fidélité à nos sources à nous en préservant l'acquis, et cet acquis c'est lequel? L'état de droit, la liberté de conscience, et puis la dimension également, dont je parlerai également, la dimension de citoyenneté. Bien, donc ce n'est pas une opposition, même si c'est une bonne compréhension de la distinction. Savoir la distinction sans promouvoir le conflit et l'opposition, c'est l'attitude de sagesse aujourd'hui, wallahu a'lam. Eh bien, deux choses me paraissent également importante au moment où on va se poser la question de notre responsabilité. La première des choses, c'est d'avoir une conscience extrêmement claire de notre identité de musulman. Notre identité de musulman, il faut qu'on ait une conscience claire de ce que c'est. Parce que il y a une chose aussi qui peut poser un problème. C'est que derrière la structure sociale de ce pluralisme, de cet état de droit, il y a une dissolution chez les musulmans de leur compréhension de leur propre identité. Et là, c'est un appauvrissement. Et là, il faut faire attention. Parce que c'est ce qu'on voit dans les sociétés occidentales. Dans la neutralité de l'État, il y a eu déperdition de la foi. Attention. Dans cette espèce de neutralité comme ceci, on a vu des gens qui perdaient leur référence religieuse. Et nous, ce qui doit être au centre, c'est une conscience fondamentale de notre foi. Elle est fondée sur quoi, très rapidement? Un, sur la foi, la pratique et la spiritualité. C'est le premier pilier de notre foi. Une foi, une pratique, c'est-à-dire une pratique quotidienne, et une spiritualité, c'est une façon de concevoir notre vie et notre mystique. Parce qu'il y a dans la tradition musulmane une mystique. Attention à ceux, comme les orientalistes qui disent, il y a les musulmans orthodoxes d'un côté et il y a les soufis de l'autre. Ça ne veut rien dire. L'islam, par essence, est spirituel et mystique, et la mystique reste islamique. Ce ne sont que quelques mystiques qui sont allés très loin, trop loin parfois, mais pour nous, la mystique, il faut la garder dans la maison islam. Pas commencer à rentrer dans ces distinctions qui sont fausses. Ça ne veut rien dire pour nous. Un musulman est un mystique par nature. Et un mystique doit rester musulman par principe. Deuxième élément, l'islam, qu'est-ce que c'est? La compréhension des textes et la compréhension du contexte. C'est l'identité musulmane, d'avoir toujours ce lien entre le texte de la référence, toujours, ce qui fait référence chez nous c'est ceci, mais la compréhension du contexte. Être musulman, c'est développer une foi, une pratique, une spiritualité, mais également une intelligence. Une intelligence des textes et du contexte. Parce que tu ne peux pas être musulman si tu ne comprends pas le contexte. L'une des caractéristiques fondamentales dont parlait Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'était de dire tu ne seras jamais un mujtahid si tu ne connais pas les hommes. Parce que tu vas donner une fatwa à qui? Tu ne vis pas sur la lune, tu vis dans un contexte donné, il faut le connaître, le contexte. Troisième élément, être musulman, c'est éduquer et transmettre la foi et la spiritualité. Où que tu sois, dans quelque société, tu peux mettre n'importe quelle étiquette sur la société, si tu n'as pas le droit dans cette société d'éduquer ton enfant et de transmettre ta spiritualité, alors tu ne peux pas vivre ton identité de musulman. Mais encore faut-il avoir conscience de ta nécessité d'éduquer. En d'autres termes, à chacun d'entre nous, quelque société dans laquelle tu vives, est-ce que tu transmets? Est-ce que tu éduques? Est-ce que tu donnes le minimum de cette lumière qui est la lumière qui donnera le paradis? Quatrième dimension de ton identité, agir et participer. Tu n'es pas un musulman, tu n'es pas une musulmane si dans la société dans laquelle tu es, tu n'agis pas et tu ne participes pas. Parce que c'est facile de rester assis en disant c'est une société trop folle. Mais toi, tu es un paresseux. Et je ne sais pas, wallahu a'lam, ce qu'il en sera devant Dieu de celui qui est kafir sans avoir connu l'islam, de celui qui est paresseux en l'ayant connu. Allahu a'lam. Et donc, ce sont les quatre principes de notre identité musulmane. Il faut les connaître très très fort, il faut s'en nourrir tous les jours. À côté de ceci, il faut regarder la société et se dire, cette société-là, elle m'a donné un certain nombre d'acquis. Elle m'a donné cet état de droit, elle m'a donné la possibilité de pratiquer, elle m'a donné la possibilité de faire des associations, d'avoir des fondations, de pouvoir m'engager à défendre l'islam, elle m'a donné la possibilité de m'éduquer. Bien sûr, vous êtes dans une société, mais regardez, il y en a d'autres encore qui sont beaucoup plus à plaindre que vous en matière d'éducation, qui ont soit des taux d'analphabétisme importants, mais une société musulmane est une société pour l'alphabétisation. Jamais une société qui est paresseuse devant l'analphabétisme. Et puis, reconnaître tous ces acquis et finalement jouer notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, je crois, dans la société qui est dans laquelle nous sommes, ce n'est pas de s'asseoir uniquement et d'avoir un débat sur la nécessité ou non d'enlever laïcité dans notre constitution. C'est une discussion qui peut avoir son importance, elle ne m'intéresse pas pour ce qui me concerne. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est de renvoyer tous les musulmans de la société majoritairement musulmane à leur responsabilité devant Dieu pour réformer une société. Parce qu'une société, c'est une communauté de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui a compris sa responsabilité. Pas un discours au-delà des principes, mais une vraie réalité dans laquelle on doit s'engager. Et je vous propose dans cette conclusion de vous donner 5 domaines sur lesquels nous, dans cette société-là, par rapport aux principes, fera qu'à un moment donné sera discutée beaucoup plus concrètement la question de notre référence à l'islam pour une société. Parce que ça ne sert à rien de vouloir la référence et de ne pas la porter dans son cœur. Ça ne sert à rien de parler d'une structure et de ne pas avoir de société. La structure changera quand les êtres humains changeront. Ça, c'est une chose importante. Et Dieu, il ne change pas ce qui est dans un peuple avant qu'il ne change ce qui est en eux-mêmes. Alors commençons par là. Quelle contribution aujourd'hui, plutôt qu'un simple discours théorique dans cette société-là, en reconnaissant les acquis qu'elle a, pour vous, chacun d'entre vous, de pouvoir être ici un soir, parce que j'aimerais vous dire qu'il y a dans d'autres pays, on ne peut pas faire le moitié du centième de cette conférence à quelque part. Il n'y a pas cette liberté. Donc on va revenir maintenant à notre situation par rapport au concept de vous, les musulmans sénégalais, dans la laïcité, ce terme qui vient d'une autre civilisation, mais dans lequel vous devez vivre et par rapport auquel il faut tirer le maximum d'acquis possible, au lieu de s'arrêter de ne rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? 1. Fondamentalement, de poser la question et de vivre et de faire en sorte personnellement chacun que nous mettions au centre de nos vies la spiritualité, la foi et la pratique. Parce que ça ne sert à rien que tu me parles de changer les lois si tu ne t'es même pas changé toi-même. Ça ne sert à rien que tu me dises « je veux une société idéale » si toi, tu n'es pas exigeant. Tu veux faire une société idéale avec un paresseux? Quelle société tu vas avoir si tu me parles de théorie? Alors, bien entendu, on aimerait peut-être que... Mais le processus, il est aller-retour. Change-toi, tu interpelles l'État. Et puis, c'est un processus d'aller-retour entre la population et l'État dans lequel on vit. Mais l'État ne se changera que si les gens se changent. Et quand les gens se changent, ils interpellent l'État et on est dans un processus dialectique. Mais l'État, à un moment donné, ne peut pas ne pas tenir compte d'un peuple qui change. Donc il faut changer le peuple. Donc il faut le réformer, il faut l'éduquer. Premier élément, la foi et la spiritualité. Dans cet État laïque, il faut la mettre au centre de notre vie. Quelle spiritualité est la nôtre? Qu'est-ce qu'on apporte? Parce que j'aimerais vous dire une chose. La plus grande des crises qu'on est en train de vivre en Occident avec cette gestion, loin du religieux, qu'est-ce que c'est? C'est une formidable crise de la spiritualité. C'est une vraie, vraie question qu'ils ont dans les sociétés européennes. Une crise de la spiritualité. Et nous, ici, vous, au Sénégal, de revenir fondamentalement avec l'acquis qui sont les nôtres dans cette société, avec une question fondamentale. Qu'en est-il de la spiritualité? De poser la question au gouvernement, de poser la question aux acteurs sociaux, Comment on fait dans cette société? Qu'est-ce que vous faites pour préserver notre foi et notre spiritualité dans les écoles, dans les quartiers, dans la rue et dans la télévision? Et dans la télévision, parce que cette colonisation intellectuelle et la colonisation des intimités, vous savez, les deux colonisations les plus difficiles qui sont les nôtres, c'est pas la colonisation politique, c'est la colonisation de la tête, c'est la colonisation intellectuelle, et il y en a une autre, c'est la colonisation par la peur. Les musulmans sont en train de vivre une période, c'est étonnant, ils ont peur. Peur de qui? Il faudrait avoir peur de Dieu, ils ont peur des hommes. Cette peur-là, elle nous paralyse. La spiritualité, fondamentalement, revenir avec ce discours et se centrer aujourd'hui sur cette foi, cette transmission de la foi et cette spiritualité. Alors on questionne les structures étatiques. Alors on peut dire, qu'en est-il de cette transmission aujourd'hui? L'autre chose, c'est la question du sens. Qu'est-ce que vous voulez pour nous? Qu'est-ce que ce projet social qui est le nôtre? Nous, on sait une chose. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On est à Dieu et on retourne à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que vous allez justifier, ou vous, dans cette société-là, qu'il y ait des gens qui aient vécu dans cette société-là analphabètes? C'est son droit fondamental de pouvoir dire « Iqra » et il est devenu analphabète dans cette société-là. Eh bien, nous, il faut qu'on retranche qu'on soulève nos manches et qu'on se batte aussi pour le sens de cette société-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas être passif par rapport à la question du sens. Et là, les intellectuels sénégalais devraient interpeller les intellectuels occidentaux sur la question du sens, non pas réactivement, avec la peur de ce que vont penser les occidentaux. Ils ont énormément besoin d'une pensée fraîche, neuve, qui vienne du sud, et qui leur pose la question du sens, sans crainte, sans peur, sans complexe surtout. Parce que ça, c'est un autre chose, c'est le complexe que l'on a. Ils pensent plus que nous, mieux que nous, puisqu'ils sont riches. Mais non, la richesse a noyé la pensée dans des contradictions et dans des tiraillements que nous, on doit apporter. Finalement, il arrive que la pauvreté soit une ni'ma, une bénédiction. Elle rafraîchit la pensée sur la question du sens. Et la question du sens est fondamentale, c'est ce qu'on doit apporter. Troisième chose, une contribution fondamentale sur laquelle chacun d'entre nous est impliqué. C'est un état de droit. Eh bien, nous voulons le droit. Et là, il faut que les voix se fassent entendre pour être constructif et positif. Une vraie organisation dans le droit, comme nous enseigne l'islam. L'islam, que tu sois pauvre ou riche, tu as le même droit. Et nous voulons une société de droit. Et là, on a tous à se mobiliser pour ceci, à tous les niveaux, sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national, d'interpeller nos interlocuteurs et nos responsables politiques. C'est une société de droit que nous voulons par ordre de Dieu. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Appliquez le droit. C'est l'islam, ça. Et ça, c'est pas occidental, c'est pas l'état de droit à mode occidental. C'est l'état de droit tel qu'il était, avec qu'on a des exemples tellement nombreux, et dans le Coran il y a 8 versets qui viennent innocenter un juif qui n'avait pas volé d'un musulman qui disait que c'était lui dans Sourate An-Nisa. Ça, c'est le droit. Si toi tu es le voleur et que tu es musulman et que lui il est juif et il est innocent, c'est toi qu'on juge. Si c'est toi qui es riche et lui qui est pauvre, c'est toi le coupable, c'est toi qu'on juge. Ça, c'est l'islam. Et dans cette société, vous avez la possibilité d'intervenir sur la question du droit. Encore faudrait-il, chers frères et chères sœurs, que vous le connaissiez. Encore faudrait-il s'éduquer à connaître le droit et interpeller. Mais les frères et les sœurs qui restent assis, parlant de l'État islamique idéal, loin de la réalité sénégalaise et qui ne s'engagent pas quotidiennement à changer les choses, ils parlent d'un rêve et trompent leurs frères. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement travailler depuis ce qu'on est, c'est-à-dire à changer les cœurs, à changer les consciences, à travailler sur le droit, pour que les choses changent dans le bon sens. C'est ça que l'on veut, un état de droit qui soit mieux que ce qu'il est encore, et si déjà il a des acquis, alhamdoulilah, on prend tout ce qui est acquis, c'est bon. Tout ce que vous nous donnez déjà, c'est islamique. Mais tout ce qui manque, c'est sur votre dos et sur vos épaules, devant Dieu, et vous aurez à en rendre compte. La cinquième des choses, on a parlé tout à l'heure en 1940, il y avait une grande question en Égypte. Et en particulier, mon grand-père, rahimahullah, était impliqué là-dedans. On parlait du vote. Et il avait cette réflexion en 1940. Il disait, il faut que les gens participent et leur mot à dire. Parce que quand il est dit « Amruhum shura baynahum », ils se concertent ensemble de leurs affaires, il faut que le peuple ait la capacité de se concerter. Mais il mettait en évidence une chose, le degré d'éducation civique et de compréhension de l'enjeu politique dans la population est tel que de l'appliquer n'importe comment, ou de l'appliquer comme ceci sans éducation, c'est pire parfois que de ne pas l'appliquer. Et il a lancé un programme de conscientisation et d'éducation civique, c'est-à-dire des gens qui connaissent là où ils vivent et qui s'impliquent personnellement à essayer de donner leur voix, à comprendre la situation politique. Cette dimension de citoyenneté, elle est islamique. La dimension d'être un citoyen, de donner son opinion et d'avoir une attitude critique et de ne pas être paresseux. Donc il faut s'engager dans tous les domaines qui sont les nôtres où on peut amener les choses à changer vers plus d'islam, mais pas au bout de ses lèvres, dans sa vie quotidienne, mais pas au bout de ses lèvres, dans sa vie quotidienne, dans son honnêteté intellectuelle, dans son honnêteté citoyenne, dans sa volonté d'établir le droit. Alors on changera une société, voire plus de réformes, et alors les vraies questions apparaîtront, non pas théoriquement, mais profondément. Et la dernière des choses sur laquelle nous devons être nous-mêmes des exemples, c'est la question du pluralisme, le respect du pluralisme. L'un des plus grands échecs en Europe, ce n'est pas le pluralisme politique. Ils ont réussi le pluralisme politique. Ils acceptent les partis. Mais c'est le pluralisme religieux et culturel. Ils échouent. À nous de montrer l'exemple qu'en islam, le pluralisme culturel est possible parce que ce n'est pas une tolérance. En tant que musulman, tu n'as pas le droit de tolérer. Tu es obligé de respecter. C'est une obligation. Parce que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté. Il a voulu la diversité, tu es obligé de respecter. Et ça, c'est notre rôle dans cette société-là, d'avoir une attitude par rapport aux autres traditions culturelles et religieuses de respect et d'égalité. De ce point de vue-là, pour nous aussi, c'est quelque chose qui fait partie de tout ce qu'on comprend de la structure constitutionnelle en islam. Si, chers frères, et je terminerai là parce que j'ai été un peu long, si chacun d'entre nous, par rapport à la question de l'islam et de la laïcité, voyez en fait que la laïcité a voulu dire quelque chose et qu'elle a apporté des choses qui correspondent au fondement essentiel de notre réflexion islamique. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, dans cette situation-là post-coloniale et bien post-coloniale, nous avons à nous dire cette situation-là, elle a plein de choses qui sont des acquis qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. Ni du point de vue du droit, ni du point de vue de la liberté de conscience, ni du point de vue de la liberté du culte, ni du point de vue plus généralement de l'état de droit. Et que nous, dans cette société-là, plutôt que de développer un discours théorique d'opposition, nous allons développer une éducation de la réforme. Un véritable engagement à poser les vraies questions sur la spiritualité, sur le sens, sur l'état de droit, et de participer personnellement à cela, on s'apercevra effectivement qu'on peut transformer et qu'on peut proposer quoi? C'est ce que je vous propose de réfléchir. Un nouveau modèle. Un nouveau modèle. Parce que le modèle occidental est un modèle qui est lié à son histoire. Vous avez une autre histoire, vous avez d'autres références. Vous prendrez de ce que vous a apporté l'Europe, et la France en particulier, tout ce qu'il y a de bien. Et vous ajouterez tout ce que l'islam, tout ce que vos références ont de fondamental. Et de ce qui est bien venu des hommes et de ce qui est la référence venue de Dieu, vous pouvez apporter dans les sociétés, Inch'Allah, à l'avenir, un nouveau modèle. Mais par quoi est-ce que tout cela commence? Par la conscience individuelle, par l'approfondissement de sa foi, par la rigueur intellectuelle, je ne cesse de poser cela comme un préalable, la rigueur intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, et puis une chose fondamentale, l'attitude personnelle. Tu ne changes pas une société, tu ne changes pas un État si tu n'as aucune exigence par rapport à ta foi et ta conscience. Assalamu alaikum.